Amen. Le plus grand miracle qui puisse arriver sur la terre dans la vie d'une personne, c'est d'être sauvé. Vous êtes d'accord? Ceux qui l'ont vécu peuvent être d'accord. On ouvre la parole de Dieu sans plus tarder dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Luc, chapitre 15. Juste avant, il est question, justement, Jésus enseignait, il aimait enseigner, les foules qui venaient à lui, il disait des paroles avec une certaine autorité, une autorité spirituelle, avec vérité, il allait plus loin et en profondeur, plus loin que les philosophes de l'époque, plus loin que les grands sages de l'époque, et les gens étaient impressionnés, ils venaient l'écouter avec plaisir, quelquefois c'est vrai que ce qu'il disait était difficile, mais il comprenait à son contact, au-delà des mots simplement qui sortaient, qu'il y avait quelque chose de vivant, il y avait une vie. Jésus disait des paroles importantes qui touchaient non pas le cerveau uniquement, mais le cœur des gens. Et Jésus, à un moment, il parlait pourtant de choses très dures. Il parlait de la marche chrétienne, la marche juste. Il parlait de tout cela. C'était des choses assez exigeantes. Et tout d'un coup, des gens, justement, vont commencer à critiquer Jésus. Et c'est le chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, les grands religieux de l'époque, murmuraient disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et le comble, il mange avec eux. Lui qui parle de justice, lui qui parle de ce qui est droit, de ce qui est bien et tout, il mange et il accueille des gens de mauvaise vie. On continue? Mais Jésus leur dit: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore: un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Jésus-Christ donne tout cet enseignement, et c'est vrai que c'était un peu long, merci de votre attention et votre concentration, mais je voudrais vraiment qu'on comprenne une chose. Lorsque Jésus parlait, c'est vrai qu'il a dit des choses qui semblaient exigeantes et dures. Et certaines personnes ont confondu l'exigence, c'est vrai, la sévérité de Jésus dans les paroles qu'il enseignait, puisque la vie éternelle, le paradis, le ciel, c'est quand même sérieux comme affaire. Ils ont confondu ça avec du légalisme. Et ces pharisiens, ces religieux de l'époque, qui eux faisaient attention, comme le dit des fois M. Go, à la dîme de l'aneth ou de la menthe, 10% sur 10 cm, 1 cm de menthe ou d'aneth pour le Seigneur, ils étaient prêts à faire attention à ça. Et à côté de ça, quand une personne malheureuse était au contact de Dieu ou de Jésus-Christ, ils se moquaient, ils critiquaient, ils disaient que c'était pas normal parce qu'ils avaient confondu la justice de Dieu avec le légalisme et ils avaient mis en oubli ce qui pour Dieu est le plus important, la grâce. La grâce. Dieu fait grâce sans qu'on mérite. Il nous donne la vie éternelle, sans qu'on fasse de prouesses, sans qu'on fasse eh bien, des forces surnaturelles. Dieu donne la grâce, il pardonne. Le cœur de Dieu est là pour pardonner. Ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu et qui ont lu le récit de Moïse, à un moment, Moïse va dire « Montre-moi ta gloire ». Dieu va l'amener dans une caverne et alors qu'il lui a donné auparavant la loi, il va lui dire « Regarde ». Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et quand il lui dit, montre-moi ta gloire, Dieu lui répond, je vais te montrer ma bonté. Et beaucoup de personnes conçoivent Dieu comme un père fouettard, comme quelqu'un de tellement exigeant qu'il faut surtout pas s'approcher de lui, comme quelqu'un de tellement saint qu'on ne peut pas s'approcher, qu'il est en colère toujours contre nous, alors qu'en vrai, sa colère est tombée sur son fils pour qu'on en soit épargné et qu'on reçoive à la place la grâce de Dieu. Il explique qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui fait toutes sortes de bonnes œuvres, c'est ça ? Pas tout à fait. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme, un pécheur qui fait quoi ? Juste qui demande pardon et qui change d'attitude, qui se repent profondément, qui change de mentalité. C'est juste ça. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 89 justes qui n'auraient pas besoin, je dis bien qu'ils n'auraient pas besoin de repentance. Parce qu'en vrai, il parle à des pharisiens qui croient, eux, qu'ils sont justes et qui n'ont besoin d'aucune repentance. Oui, moi, je suis parfait. Qui est parfait ce soir ? Qu'il lève la main ou se taise à jamais. Personne n'est parfait. On est tous pareils et heureusement qu'on réalise qu'on n'est pas parfait. Ça serait grave de croire qu'on est juste, qu'on n'a besoin d'aucun sauveur, de personne pour être pardonné, parce que alors on se priverait de cette grande grâce que Dieu a pour les hommes. Oui, la religion va dire « fais ceci pour être sauvé », une autre va dire oh, « fais autre chose, récite ça », etc. Toutes sortes de choses. Apprends par cœur, et si tu sais pas comment faire, eh bien on va te taper, si tu te souviens pas, je te tape sur les doigts, etc. Dans une certaine religion, le baptême dans le Saint-Esprit, c'était imagé par une claque. Vous savez, historiquement parlant en France, le baptême dans le Saint-Esprit était symbolisé par une gifle. C'est pas ça ce que Dieu veut, non ? Heureusement, hein ? Heureusement. Mais c'est pas ça, mais comme quoi la religion peut tordre le visage que Dieu nous laisse dans sa parole. Et le visage, quand je dis visage, comment le reconnaître, comment le discerner ? Eh bien, en regardant la vie de Jésus-Christ, son fils. La première image, c'est l'image d'un berger. Jésus dit, voilà, quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis qu'il en perde une, ne laisse les 99 en sécurité, bien sûr. Il va chercher celle qui est perdue, celle peut-être qui est dans un fossé, qui est tombée dans des ronces, qui ne sait pas d'elle-même retrouver son chemin et qui crie, parce qu'elle est en détresse. Celle-là, il va la chercher, parce qu'il aime sa brebis. L'image que Jésus donne de cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu, c'est un berger qui a des brebis, et il y en a une qui est en danger, et qui crie à lui. N'importe quel berger vous dira qu'une brebis qui est partie, elle ne saura pas retrouver seule son chemin. Vous avez vu, il est dit « Quel homme d'entre vous ?» Jésus compare la grâce de Dieu à un homme qui va chercher une brebis qui est perdue et qui d'elle-même ne peut pas retrouver son chemin. Le berger, vous savez qui a dit « Je suis le bon berger » ? Vous savez pas, Monsieur Gouin, qui a dit « Je suis le bon berger » ? C'est Jésus. Cette image, cette première portion qu'on a lue, c'est l'image de Jésus-Christ qui a vu les hommes qui d'eux-mêmes ne pouvaient pas retrouver le chemin qui menait au ciel, qui ne pouvaient pas comprendre quelle est la route qu'il faut emprunter pour aller au ciel. Et Jésus a fait le chemin inverse. Il est venu du ciel sur la terre pour trouver la brebis qui réalise qu'elle a besoin d'être sauvée et qui crie à lui. Quelle image! Et vous avez vu ce qu'il dit? Il la tape pas parce qu'elle est partie loin, parce qu'elle s'est garée. Il la regarde pas en disant « Tant pis pour toi, je vais te laisser encore une demi-heure souffrir. » Non, il la prend, il la met sur ses épaules. Parce que probablement qu'elle est fatiguée à force d'avoir cherché, à force d'avoir crié, à force d'avoir peut-être tiré dans les ronces, je sais pas, il y a plusieurs images qui sont données. Et oui, si quelqu'un crie à Jésus, il la prend, il prend cette personne, il la met sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il la porte. Ce qui lui est pas possible de faire, il le fait lui-même, il la porte et il la ramène à la bergerie. Amen. Aux hommes, impossible d'être sauvés. Mais Jésus est venu sur la terre pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est dans Luc, chapitre 19, verset 10. Je l'ai mal écrit, alors désolé pour l'attention. Luc, chapitre 9, verset 10. Il est écrit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le Fils de l'homme. L'homme qui a sans brebis, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, hein, il va après elle, il la retrouve et après il appelle ses amis. C'est Dieu qui fait la démarche. Le deuxième texte compare la grâce de Dieu et l'œuvre de Dieu à une femme, bizarre. Une femme qui a 10 drachmes et elle en perd une. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va chercher, elle allume la lampe, elle va balayer toute sa maison, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle la trouvait, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Une femme, littéralement en grec, c'est une jeune fille. Et on comprend derrière cela une fiancée. Parce que l'histoire nous raconte que lorsqu'une jeune fille devait aller se marier, avant, elle récoltait, elle économisait 10 drachmes et elle en faisait une sorte de couronne qu'elle portait sur elle. Et c'était des économies pour le mariage et 10 drachmes comme ça. Et si elle en perd une? Pour le mariage, mince! Qui veut se marier? Et cette jeune fille, elle est là, elle perd une drachme. Il vérifie, hein. Il y a 10 drachmes et elle en perd une. Vous imaginez une jeune fille, toutes les jeunes filles veulent un prince charmant, hein. Et elle est là, cette jeune fille, elle dit, mais je peux pas me marier s'il en manque une. En tout cas, la honte dans une qui manque. Et elle va chercher, elle va balayer. Et c'est l'image, cette femme, de quoi? Prenez Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse. Saviez-vous qu'en hébreu comme en grec, esprit c'est féminin? Saviez-vous cela? C'est pas le Saint-Esprit, littéralement c'est souffle, c'est la Saint-Esprit. C'est ça. En grec, il y a en français, c'est le. Mais en grec, littéralement, pour un juif, c'est pas gênant de parler de la souffle, la vent. C'est pas le vent. Et le Saint-Esprit, je ne vais pas dire que c'est une femme, mais en tout cas, il y a l'épouse de Jésus-Christ qui, elle, est une femme. L'Église, c'est cette épouse de l'Apocalypse qui aspire, vient, qui veut, eh bien, ces noces de l'agneau, c'est pas vrai? L'Esprit et l'Église y sont liés. Vous savez que la dispensation de l'Église, désolé pour ce gros mot, dispensation, mais cette période de l'Église qui a commencé où? À la Pentecôte. Et qui se terminera quand? Quand Jésus viendra l'enlever. Pour les noces de l'agneau. Eh bien, cette église, c'est aussi la dispensation du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. En français, on le dit, alors on va le laisser, le Saint-Esprit. C'est sans manque de respect. Mais cette image de cette épouse, l'église, qui ne peut pas aller à la rencontre de l'époux alors qu'il y en a un qui manque. Et peut-être que quelqu'un ce soir, et là, il est comme, eh bien, l'image de cette personne qui manque, de cette drachme qui manque, Et Jésus voit déjà dans votre cœur le fait que vous croyez en Dieu, que vous cherchez la vérité, que vous êtes en quête, eh bien, du salut, vous voulez être sauvé et vous manquez encore à l'appel car vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ. Vous ne vous êtes pas encore préparé. Il n'a pas encore votre berger et vous ne faites pas encore partie de cette épouse qui aspire à voir son époux et à vivre ses noces de l'agneau dans le ciel. C'est cette image exactement de cette femme qui va chercher. Et qu'est-ce qu'elle fait? Le moins important là, ce n'est pas être perdu, c'est balayer. C'est le moins important, balayer. Vous savez que dans la parole de Dieu, il est parlé des balayures, des gens qui sont traités comme moins que rien. Pas qu'ils ne sont des moins que rien, parce qu'aux yeux de Dieu, tout le monde est important. Que je sois français, ivoirien, chinois, américain, peu importe, sur toute la surface de la terre, la couleur de ma peau, mon âge, les couleurs de cheveux, ma taille, quoi, quel que soit, mon poids, tout ce que j'ai, riche, pauvre, on est tous importants aux yeux de Dieu. Et on a tous de la valeur. Et la même valeur, on est tous des drachmes. Mais seulement, eh bien, le monde peut-être vous traite comme une simple balayure. Comme moins que rien. Regardez dans Jacques au chapitre 2. Il est dit comment l'Église accueille ceux qui, ou devrait accueillir ceux qui viennent à elle. C'est pas toujours le cas, mais qu'il en soit ainsi lorsque, eh bien, quelqu'un vient à cette assemblée, dans cette église ici à Sainte-Agne. Regardez, Jacques chapitre 2, verset 1. Mes frères et mes sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Ne faites pas de distinction. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Il y a un enseignement de la part de l'apôtre, enfin de Jacques en tout cas, il est là et il va dire, mais quand quelqu'un rentre, ne regardez pas à son apparence. Regardez à la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. C'est ça. Ne faites distinction de personne. Acception de personne. Tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Et il est parlé, bien sûr, des balayures, si on peut eh bien, employer ça avec respect, bien sûr. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13, c'est littéralement écrit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Paul parle, il dit qu'il se consacre tout entier au Seigneur, qu'il y met tout son cœur, il veut le bien de tous, il interpelle au salut, il propose le salut à chacun, et voilà comment il est considéré comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et peut-être que le monde, dans votre vie, vous a toujours considéré comme un ou une moins que rien. Peut-être que dans votre famille, vous étiez le dernier des derniers, celui auquel on ne pensait pas, comme l'histoire de David. On fait venir tous les frères et lui, on l'oublie. Il y en a un qui va devenir roi, mais lui, c'est même pas la peine de le présenter, ça risque pas d'être lui. Eh bien, c'est lui que Jésus va choisir. Vous avez eu dans Jacques, y a-t-il beaucoup de riches parmi vous? C'est pas question qu'un riche ne peut pas avoir le salut. Est-ce qu'on peut être riche et être sauvé? Tout à fait. Est-ce qu'on peut être pauvre et sauvé? Tout à fait. Il est quand même dit qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il est plus dur à un riche. Vous comprenez? Parce que, eh bien, quand on a tout ce qu'il nous faut, c'est dur de reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un. C'est vrai aussi. Et si quelqu'un vous a considéré comme une balayure, moins que rien, eh bien, l'Église balaye pour chercher, justement, votre vie qui est précieuse. Et sachez que si vous venez pour l'une des premières fois ou la première fois, vous n'êtes pas pour vous, pour nous, qu'une balayure, vous êtes précieux et précieuse. À nos yeux, parce que vous êtes précieux et précieuse. Aux yeux de Dieu aussi. Et si quelqu'un vous a dit, oh, toi, t'es un petit démon. Toi, t'es le diable. Ou t'as un démon en toi. Vous savez qu'une fois à l'école du dimanche, un enfant a dit à ma femme, maman, elle dit que je suis un démon, moi. Que moi, je suis le diable. Et que je le diable en moi. Elle me le dit tout le temps. Imaginez-vous, un enfant marqué, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à qui on a dit pendant des années, depuis qu'il est né peut-être, tu sais, toi, t'es le diable, hein. T'as un démon en toi parce que l'enfant est un peu turbulent. Ah, ça, c'est beau, ça. Et peut-être que c'est ce qu'il y a sur la vie de quelqu'un, c'est peut-être pas par les parents, mais c'est au travail. De toute façon, toi, tu vaux rien, c'est toujours mauvais ce que tu fais. Toujours des paroles, comme on les appelle, des paroles de mort sur votre vie. Eh bien, même si le monde vous considère comme une balayure, aux yeux de Dieu, vous êtes une pièce précieuse, importante. Et s'il en manque une, si vous manquez à l'appel, eh bien, l'Église ne serait pas complète. C'est ça que ça veut dire. Le Seigneur vous aime. Et l'Esprit et l'Église s'unissent pour chercher ceux qui doivent être sauvés, ceux qui sont prêts à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur berger. Et la troisième affaire, c'est non plus l'image d'un homme ou d'une femme, mais l'image d'un Père. Dieu le Père. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il va dire, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père. Vous connaissez cette prière probablement de votre enfance, si vous avez un certain âge, puisqu'avant, autrefois, tout le monde était catholique, de moins en moins. Mais vous connaissez peut-être le notre Père qui est aux cieux, notre Père. Quelle grâce de pouvoir appeler déjà Dieu son Père. Est-ce que vous le pouvez? Est-ce que vous l'avez accepté comme le Père de votre vie? Vous savez, un père, il n'est pas là juste pour donner des pourboires ou, l'argent de poche. Et combien de personnes voient Dieu comme un donneur d'argent de poche? Quand j'ai besoin un petit peu, hey, Dieu, tu veux me donner ceci? Fais que je gagne au loto, fais que j'ai ceci, et fais donne. Oui. Et Dieu, il veut être notre père. C'est bien plus que de donner l'argent de poche. Un père, c'est celui qui est un modèle pour son enfant. J'écoutais hier 30 secondes une émission où un homme, il avait manqué de père puisque sa famille avait subi un divorce. Ses parents avaient divorcé. Et lui, il a grandi et il disait, toute ma vie, j'ai cherché des modèles dans toutes sortes de choses. Des fois des bonnes choses, mais bien souvent des mauvaises choses. Et j'ai toute ma vie souffert du manque d'un père. Et c'est pas moi qui le dis parce que je le pense. C'est quelqu'un qui en a vécu l'expérience. Par contre, je peux confirmer parce que la parole de Dieu en parle. On a tous besoin de notre Père, de ce Créateur qui n'est pas juste là pour nous créer et nous les abandonner, comme certains le font, ou nous procréer et nous abandonner, en parlant des hommes, mais il est là, il veut être notre Père, c'est-à-dire nous accompagner, nous protéger, nous nourrir, mais aussi nous conseiller, être un modèle pour nous, nous accompagner dans les époques de notre vie. Pour ceux qui ont eu un Père qui les a aimés, vous savez combien c'est précieux que d'avoir un papa. Un père qui prend soin de nous. Papa, c'est pour les hommes. Père, c'est vraiment l'image de Dieu. Père, c'est pour Dieu. On ne dit pas papa à Dieu. Ce n'est pas un copain à Dieu. Combien d'enfants, combien de personnes trouvent leur père et confondent leur père avec un copain? Et ce n'est pas le cas non plus. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Bien sûr qu'on peut être ami. On peut vraiment avoir un ami profondément avec un père. Qu'on soit à la fois un confident, quelqu'un en qui on peut se confier, qu'on sait qu'il nous donnera les bons conseils, comme un véritable ami, pas un ami selon le monde, un ami selon les critères divins. Et Dieu veut être un père pour nous, ce père. Et il est dit que ce père avait deux fils. L'un d'entre eux a dit, Seigneur, père, papa, peut-être il lui a dit, donne-moi bien la part de l'héritage qui me revient. Vous savez que le père, il n'a pas fait d'histoire. Il a donné, il a partagé à tout le monde, parce que Dieu est juste. Et le plus jeune est parti. Le plus jeune est parti loin. Le mot important, ce n'est pas perdu, ce n'est pas balayé ou balé. Le mot que je trouve important dans ce texte, c'est éloigné. Éloigné. Puisqu'il est dit qu'il a tout ramassé, il est parti pour un pays éloigné. Et quand est-ce qu'on est loin de Dieu? Eh bien, quand on vit dans le péché? Vous avez vu, il est parti dans un pays éloigné, il a été loin de Dieu, il est allé vers les prostituées, le grand frère nous dit. Il a dû entendre la renommée de son frère, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de mail, ou de texto, ou de téléphone. Sûrement que ce que son frère a fait a été rapporté, imaginez-vous. C'est qu'il devait être connu, hein, là où il allait. Il a dû la faire, la fête. Et petit à petit, il s'est éloigné du père. Parce que la présence d'un père, c'est gênant. On sait que si on fait quelque chose de mal, il va nous reprendre. Parce qu'il nous aime, le Père. Il veut prendre soin de nous. Alors on préfère s'éloigner. Ou vivement que j'ai 18 ans, que je quitte la maison. Hein. Certains pensent ça. Hein. Vivement que je parte parce que le Père, hein, voilà. Mais non, un Père. Et ce jeune homme a pris tout et il est parti dans un pays éloigné. Un autre pays. Un pays loin. Dans la parole de Dieu, il est écrit par exemple dans Matthieu 12, verset 26, qu'il y a deux royaumes sur la terre. Deux pays, on pourrait dire, Matthieu 12, 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Le diable a un royaume. Il y a un pays où le roi, c'est pas Dieu, c'est pas le Père. C'est l'ennemi de nos âmes, celui qui veut absolument qu'on s'éloigne de Dieu, absolument, qu'on reste pour l'éternité loin de Dieu, et c'est ça qu'on appelle l'enfer. Être loin de Dieu, loin de son amour, loin de sa protection, loin de sa bonté, loin de son amour, oui. C'est ça, l'ennemi de nos âmes. Et lui, il a un royaume. Ah oui, où on fait la fête, où on s'enivre, où il y a de la sensualité, toutes sortes de sexualités, en dehors du cadre de ce pourquoi Dieu l'a fait. Ça paraît plaisant, mais ce qui aboutit, c'est la famine. Toujours. La réjouissance, hein, on s'éclate, on s'amuse, mais au final, qu'est-ce qui reste ? C'est quoi le fruit ? On reconnaît un arbre à son fruit. C'est quoi le fruit de tout ça ? La famine. Une faim. Pourtant, on a fait la fête, on s'est nourri de toutes sortes de jouissances, mais on a faim au fond. Parce que l'homme n'a pas besoin de faire la fête dans des choses comme cela. Il a besoin de se réjouir dans la présence du Père. C'est ça qui nourrit un cœur, que d'entendre la voix du Père. Jésus dira, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est quoi un homme rassasié, qui n'a plus faim au point de chercher partout parce qu'il meurt de faim ? C'est un homme, une femme qui lit, qui écoute les paroles de Dieu. Et c'est exactement ça. La Bible, c'est les paroles de Dieu. Il y a un royaume éloigné de Dieu. Là où on fait ce qu'on veut, bien sûr. Là où on fait la fête. Là où on dépense toute notre énergie. Mais on en oublie l'essentiel, ce qui nourrit vraiment l'âme. Les paroles de Dieu, le bon conseil. Et puis, le royaume de Dieu, dans Matthieu 6, verset 23, il est donné... 33, pardon, il est donné un conseil de la part de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelques-uns diront, mais il faut que jeunesse se passe. Premièrement, on s'amuse et après on verra Dieu. Non, cherchez premièrement la présence du Père. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, le gîte, eh bien ça vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ce jeune homme est parti loin, un pays éloigné, loin du regard du Père, soi-disant, parce que Dieu, lui, voit tout et partout. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il fait comme ce Père qui, lorsqu'il voit à nouveau ce Fils revenir à lui, parce qu'on rentre en soi-même, on réfléchit et un jour on réalise qu'il y a bien des choses qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire. Bien des choses vers lesquelles nous sommes allés et qu'on aurait bien fait de se garder. Et ce fils, il a du courage. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais retourner vers le Père. Et là, c'est pas l'homme qui va chercher la brebis. C'est pas la femme qui va chercher et balayer. C'est la personne elle-même. C'est ce fils lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller vers son Père. « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Les péchés, ce n'est pas la faute des autres. Les péchés, on en rend compte chacun pour sa part devant Dieu. Un jour, on rendra compte tous pour notre part de la manière dont on aura utilisé, géré, fait notre vie. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ou de tes mercenaires. » Il se leva, il alla vers son Père, il fait la chose. D'abord, ça se passe dans le cœur, une décision intérieure. Mais ça se voit aussi à l'extérieur, ça se manifeste. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous avez déjà entendu ça, mais c'est vrai. Il le fait, il va le voir, et le Père, lorsqu'il le voit, il se met à préparer le sermon qui va lui passer, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est ému de compassion. Il court se jeter à son cou, non pas pour l'étrangler, mais pour l'embrasser. Le fils lui dit ce qu'il avait à lui dire, mais le père y dit, apportez-lui la plus belle robe. Vous aimeriez, vous, que le Seigneur vous donne un costume taillé pour vous, qu'il vaut des centaines, le costume à la limite, c'est pas trop important, que notre cœur y soit avec lui, que notre âme, notre être tout entier soit avec lui dans le ciel. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Le vêtement, ça veut dire que c'est plus mon péché, les taches de mes souillures. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait gardé les pourceaux, les cochons. Ça sentait quoi? Pour un juif ou pour un musulman comprendrait très très bien. Hein, garder les pourceaux, les cochons. Et pour un juif, et il devait sentir mauvais. Est-ce qu'il avait pris des douches? Peut-être. Est-ce qu'il avait encore un habit qui lui restait? S'il avait dû se mettre au service de quelqu'un qui n'avait même pas de quoi, le droit de manger ce que mangeaient les cochons et qui voulait les manger, je crois que ses habits, ils n'étaient pas propres. Il n'avait pas de gel douche qui sent super bon pour lui enlever tout ce qu'il sentait. Et ses vêtements, il n'avait pas de quoi s'en acheter, il n'avait même pas de quoi s'acheter à manger. Donc il est arrivé comme il était, peut-être en haillon, mais regardez comme Dieu est bon. Il avait la santé. Il était heureux de l'avoir gardé en bonne santé. Et je crois que Dieu peut être dans votre vie, vous qui êtes parti loin de Dieu, alors que vous l'aviez connu, c'est possible aussi. Eh bien, Dieu qui vous avait cherché une première fois, il sait que vous connaissez la route. Et il ne veut pas vous persécuter tout le temps. Il vous fait la grâce peut-être d'avoir pris soin, de vous avoir gardé de bien des maux et de bien des épreuves, même si vous vous étiez éloigné, parce que des gens priaient pour vous, parce que l'Église priait pour vous, parce que vos parents priaient pour vous, vos frères, vos sœurs, vos amis, qui eux connaissent la grâce d'être dans la présence du Père, ont prié pour vous et Dieu vous a gardé en bonne santé quand même, malgré tout. Et vous avez encore l'opportunité aujourd'hui de dire, de rentrer en vous-même et de dire, Seigneur, même si je fais semblant, même si je n'ai pas quitté le local de l'Église, dans mon cœur je sais que je t'ai quitté. Je me suis éloigné de toi. J'ai laissé dans ma vie rentrer des choses mauvaises. J'ai laissé rentrer dans ma vie des choses qui m'ont souillé. Je reviens vers toi. Et le Seigneur, il vous fait mettre une nouvelle robe. Il enlève tout ce qui a été souillé. Il lave tout ça, il met une nouvelle robe. Et vous sentez bon à nouveau. Et alors que vous dites, moi je suis tout juste bon à m'asseoir sur la chaise à écouter, je mérite que ça. Dieu dit, toi, je veux t'utiliser encore dans mon œuvre. Vous croyez que Dieu peut relever quelqu'un qui s'est égaré et l'utiliser pour être un modèle, cette fois-ci un exemple dans l'Église, alors qu'il a fait tant d'erreurs? Est-ce possible encore pour moi de servir Dieu malgré tout ce que j'ai fait? Mais j'en suis l'exemple. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'en suis un exemple. Après avoir méprisé l'amour de Dieu, sa protection, sa grâce, ce qu'il m'avait révélé, après m'être égaré pendant un temps, Dieu m'avait gardé la vie et j'ai eu l'occasion de revenir. Est-ce que Dieu aurait pu dire, bon, mais puisqu'il est parti, c'est son choix, c'en est fini, tant pis pour lui. Il aurait pu. Mais combien il est bon, Dieu. Il laisse l'occasion aux personnes. Encore un peu de temps. Jusqu'à quand, je ne sais pas, il ne faut pas jouer avec ça. Mais il laisse, quel amour. Et il a de la compassion pour nous lorsqu'il nous voit. Peut-être quelqu'un a honte, mais j'ai peur du regard de Dieu. Mais n'ayez pas peur. Son regard, il est pétri, il est plein d'amour. Pour vous, il veut vous serrer dans ses bras, il veut vous prendre, vous revêtir à nouveau d'une nouvelle robe. Le passé, c'est le passé, maintenant c'est le présent et l'avenir. Et Dieu a des projets de paix, avec un avenir, et non de malheur, avec de l'espérance pour nous bénir. Amen. Qu'on puisse être comme cela. Et vous avez vu l'autre, le grand frère, qui est l'image de ces pharisiens. Encore une fois, il donne l'image de quelqu'un qui va se plaindre parce que le frère est revenu. Lui dont la renommée s'est entendue et tout, au lieu de se réjouir, ah, enfin il a réfléchi, il aurait pu au moins juste dire ça. Bon, heureusement, t'as eu chaud, hein, comme on pourrait dire, hein, t'es passé à côté. Hein. T'as de la chance d'avoir un père comme le nôtre, hein. Il aurait pu lui dire ça. Hein. Mais bon, allez, t'es le bienvenu. Ils ont pu au moins faire ça. Non, même pas, je veux pas rentrer. Pourquoi? C'est même pas qu'il comprend pas qu'on pardonne si vite. C'est qu'il regarde à lui, quel égoïsme. Vous avez vu? Et moi? Moi qui n'ai jamais rien fait de mal, moi qui t'ai toujours obéi, servi, etc., tu m'as jamais rien donné, mais tout est à toi. Et il oublie tout ce qu'il lui a donné au départ. Mais j'ai quand même partagé l'héritage, t'as reçu ta part aussi. Pourquoi tu dis que t'as rien reçu? Ah, quand on regarde qu'à soi, on n'en a jamais assez. Et on oublie les autres. Et on oublie de se réjouir aussi. On passe à côté de tant de sujets de réjouissance. Alors que nous pourrions jouir de ce veau aussi qui est partagé. Eh bien, on peut passer à côté parce qu'on regarde qu'à soi. Nous qui sommes dans la maison de Dieu, comprenons qu'on est bénis, tout est à nous. Et utilisons ce qui est à nous. Rien n'empêche qu'on prenne un chevreau et qu'on fasse la fête aussi. Est-ce que c'est une fête, une certaine fête, tout en, avec un grand respect, le dimanche matin, de pouvoir se réunir avec les frères et sœurs? Ou est-ce que c'est une corvée, parce qu'il faut se lever tôt? Est-ce que les réunions sont une grâce pour vous? Les chants qu'on peut chanter avec les frères et sœurs? La prière, est-ce que c'est une grâce ou un fardeau? Il peut y avoir des fardeaux qu'on dépose dans la prière. Mais tout est grâce. Pourquoi ne pas en jouir? Non. Nous, la prière, c'est un travail. Il en passait des chevreaux. Hein. Il en passait, je pense, il devait s'en occuper. Mais c'était du travail. Il ne voulait même pas qu'il pouvait aussi en jouir et pouvoir en être au bénéfice. Parce qu'il était dans le royaume du Père. Cherchons d'abord le royaume du Père et tout le reste sera donné. La Trinité se réjouit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se réjouit lorsqu'un pécheur se repent. Et il ne se réjouit pas en comité réduit, il se réjouit devant les anges. Imaginez-vous le ciel, la multitude, combien il y en a des anges? Je ne sais pas, hein, des millions, des milliards, il y en a plein. Et tout le monde fait un « waouh, super !» Je ne sais pas comment ça se passe. Tout le monde chante, tout le monde se réjouit. C'est la fête quand un pécheur se repent. Aussi simple. Alors puissions-nous comprendre quelle est notre grâce si nous ne sommes pas encore repentis? Et puissions-nous réaliser quel est notre rôle en tant qu'Église? Si jamais eh bien nous sommes prêts, nous sommes dans le royaume de Dieu, et réjouissons-nous, cherchons aussi ceux qui sont encore pécheurs, qui n'ont pas connu la grâce de Dieu, pour pouvoir répandre ce bonheur et que le jour du retour du Seigneur, il ne manque pas une seule drachme. Amen. Merci Seigneur encore pour ta vie, ta paix, ta joie que tu répands lorsque nous sommes dans ta présence. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Merci d'avoir créé l'Église comme cette arche dans laquelle on peut monter pour être épargné du déluge qui s'abat sur ce monde. Oui, il y a un déluge de mauvaises nouvelles, il y a un déluge de crises, il y a toutes sortes de choses dans le monde, mais lorsqu'on est enfant de Dieu, on est à l'abri dans ce bateau de salut, dans cette Église, à cause de notre foi, à cause du fait qu'on t'a accepté comme sauveur, comme berger de notre âme, à cause du fait qu'on a compris que ce n'est pas un mérite d'être sauvé, mais c'est une grâce que tu nous fais. Et si nous marchons dans une justice, si nous comprenons qu'il y a certains sacrifices dans la vie du chrétien, nous ne le voyons pas comme un fardeau, comme une tâche dure à faire, mais nous le voyons comme un privilège. Te plaire, toi qui nous as sauvés et qui nous as aimés le premier. T'aimer alors que tu t'es donné, toi Jésus-Christ, pour nous sur le bois de la croix. Tous nos péchés, tu les as effacés. Si nous te confessons nos péchés sur le bois de la croix, il n'y a plus d'acte qui peut nous condamner parce que tu les as cloués sur le bois, sur la croix, pour qu'ils soient détruits et qu'on ne puisse plus nous les reprocher, Seigneur. Merci encore parce que tu es ressuscité, tu es vivant. Et par l'Esprit que tu envoies, Seigneur, eh bien, tu attires à toi, tu attires à ton amour et tu attires au salut tous ceux qui sont encore perdus et surtout ceux qui sont traités comme des balayures, ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans ce monde, qui se sentent à part, qui comprennent qu'il y a une vie meilleure et un autre royaume. Merci Seigneur à nous-mêmes en tant qu'Église d'avoir ce cœur pour les âmes perdues. Merci Seigneur à chacun des rétrogrades de les appeler à toi. S'il te plaît, sauve ceux qui sont partis, ceux qui ont quitté ton royaume, ceux qui se sont découragés, ceux qui ont été eh bien, scandalisés peut-être aussi et qui ont quitté la barque et qui ont quitté cette arche. S'il te plaît, donne-leur Seigneur de repenser à toi dans leur cœur. Oui c'est vrai Seigneur et qu'ils aient le courage de revenir à toi parce que tu ne vas pas les rejeter. Encore aujourd'hui, tu accueilles celui qui se repent pour le sauver tout à nouveau, le restaurer et lui donner encore une nouvelle espérance et la joie qui est la part de tous ceux qui sont tes enfants, Seigneur. Oui, tu es notre Père, à nous qui avons cru en toi, à nous qui t'avons choisi, qui avons choisi Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et merci maintenant encore de faire de nous aussi des témoins. Amen. Amen.